Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, les postes policiers chinois se sont bel et bien ingérés dans des campagnes électorales. Jour de scrutin dans Saint-Henri-Sainte-Anne, qui l'emportera? Québec solidaire et le Parti libéral du Québec semblent être pris dans une course à deux. Crise à la SAQ, les ministres Guilbeault et Kerr réagissent et un influenceur complotiste meurt des conséquences de son propre traitement d'ivermectine.
Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Toujours cette histoire des postes policiers, on le met en grand guillemets, chinois, qui s'ingéreraient ou se seraient ingérés dans les campagnes électorales, tant au niveau évidemment fédéral au départ, mais maintenant ce qu'on apprend c'est que ce serait aussi au niveau municipal, dans la région de Brossard. Et là on a des nouvelles qui continuent de sortir, on a confirmé du côté de la GRC, surtout du bureau, de nos collègues du bureau d'enquête, qu'il y avait des messages qui ont été utilisés sur le réseau social WeChat, qui est très très commun dans la diaspora chinoise et asiatique en général, qui ont écrit des messages pour mettre en évidence des candidats lors d'élections municipales, d'élections provinciales, au détriment de d'autres.
Dans le cas de Mme Sicily, qui est la responsable des deux centres, c'est disons que le message n'est pas trop ambigu. C'est pour elle qu'il faut voter. That's it.
Ouais, on écrivait, le jour du vote, vous avez deux bulletins, dont l'un pour voter pour le conseiller municipal, prière de voter Chichili, l'autre pour voter pour le maire, prière de voter Michel Gervais. Tout ça, évidemment, est écrit en mandarin. Donc, ça a été traduit, là, par nos collègues.
Ça facilite pas la surveillance pour le directeur général des élections, là.
Ouais, c'est sûr que c'est plus difficile de suivre quand on est sur un réseau social qui est peu fréquenté, règle générale, au Québec.
Et c'est écrit en caractère chinois, tu peux même pas le lire.
Oui, exactement.
Faut que t'aies vraiment quelqu'un qui connaît la langue, qui est capable de traduire.
Oui, un interprète qui pourrait aider. Donc, dans ce cas-ci, Mme Chichili a été élue avec 32 votes de majorité seulement. On rappellera, donc, est-ce qu'il pourrait y avoir eu mais un vote complètement changé en raison, justement, de cette ingérence. Ça se pourrait fort bien. Et là, pour l'instant, on continue de regarder tout ça du côté de la GRC. Madame Chichili, pourtant, avait assuré dans une conversation téléphonique que ces organismes n'avaient jamais été partisans de quoi que ce soit. Parce que c'est des organismes communautaires sur papier, là, les centres, ce qu'on appelle maintenant des postes policiers chinois. Mais ça offre des cours de langue et de soutien aux nouveaux arrivants. C'est censé être ça le rôle.
Ben ouais.
Donc, de dire pour qui voter à la diaspora chinoise, c'est pas censé être dans leur mandat, Marion.
Mais c'est sûr qu'un nouvel arrivant s'adapte bien au pays. Faut pas qu'il se trompe quand il vote. Faut qu'il vote du bon bord, non?
Ah, puis c'est qui détermine le bon bord, Marion, dans cette situation-ci?
C'est ça qui est étonnant, là.
Oui, absolument.
Ça.
Donc, l'enquête de la GRC qui continue de progresser dans ce dossier-là, au même moment où on a des politiciens comme Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, qui continue de demander au directeur général des élections du Québec, le DGEQ, d'enquêter sur cette histoire.
Mais là, il va plus loin. Là. Il demande même à la commission municipale, parce que la dame en question, Chichili, elle a été élue, elle est conseillère. Et donc, Éric Duhaime dit, ouais, mais là, elle siège au conseil de ville, obtient tous les documents de la ville, confidentiels, etc., et est au plus haut niveau. Et donc, demande à la commission municipale du Québec là, de se pencher sur le statut de cette conseillère.
Nouvelle de dernière heure, Mario, plusieurs piétons qui marchaient en bordure de la rue dans le centre-ville d'Amqui, dans le Bas-Saint-Laurent, auraient été fauchés par une camionnette. On parle de la vie de certains piétons qui seraient menacés selon les autorités. C'est produit peu avant 15h sur le boulevard Saint-Benoît-Ouest, donc tout près de la 132, devant la microbrasserie La Captive. Et les circonstances, évidemment, le reste à être éclairci. On parle de plusieurs blessés là, entre la vie et la mort, dont certains pourraient se trouver à l'hôpital. On n'a pas de nombre exact de victimes pour l'instant, mais on parle bel et bien là, de plusieurs piétons qui marchent.
Est-ce qu'on parle d'un accident? Parce que bon, on a quand même vu quelques gestes volontaires. Ça m'étonnerait dans ce cas-ci.
Mais... Le conducteur de la camionnette qui a été transporté au poste de police, dit-on, pour être rencontré par les enquêteurs. Et on s'entend que d'habitude, là, évidemment, quand on voit une camionnette faucher les gens sur un trottoir, il y a toujours l'hypothèse du camion bélier. Mais là, on n'est pas dans un centre-ville d'une grande ville. On parle d'Amqui.
Il n'y a rien d'impossible. Mais Amqui, faut dire, je connais bien Amqui. La 132, pour les gens familiers, là, tu sais, quand tu pars, mettons, tu t'en vas dans la baie des Chaleurs, là. Tu coupes à Mont-Joli, puis tu pars vers la baie des Chaleurs. Tu passes en pleine ville. Il n'y a pas de contournement. La 132 passe en pleine ville d'Amqui, là. Tu passes devant le centre d'achat, tu fais, tu sais, il n'y a pas de, il y a aucune voie de contournement de la ville d'Amqui.
Donc, ça se pourrait que quelqu'un soit entré vite, peut-être.
Un véhicule en transit. Parce que des fois, tu peux avoir quelqu'un qui fait, je sais pas, moi, qui fait, il part de Chandler, puis il monte à Montréal, il fait 11 heures de route, là.
Oui.
Fait que, tu sais, il est en plein milieu d'un 11 heures, donc il peut avoir de la fatigue, ou il peut avoir, effectivement, tu passes dans une ville, mais toi, t'es comme en mode longue route, là. Fait que faut que tu fasses attention pour ralentir quand tu passes dans le milieu de la ville.
Ouais, certainement plus de détails qui nous seront communiqués plus tard. On pense évidemment à ces gens qui sont en très mauvais état suite à cette collision. C'est jour de scrutin aujourd'hui dans Saint-Henri-Sainte-Anne, élection partielle un mois après le déclenchement de cette élection qui vise à faire élire un ou une successeur à Dominique Anglade, l'ex-chef libéral qui a quitté en décembre dernier. 11 candidats sont en liste, Mario, mais on en surveille deux particulièrement. Selon plusieurs sites de sondage, on parlerait du Parti libéral du Québec et de Québec solidaire qui seraient engagés vraiment dans une course à deux. Faut comprendre que c'est un bastion libéral, règle générale, depuis sa création.
Mais c'est aussi la course à deux qui a eu lieu en octobre dernier.
Exactement.
Les libéraux que Mme Anglade a gagné.
Surtout que c'est un combat revanche pour Guillaume Clich-Rivard, qui est cet avocat en droit de l'immigration, qui est candidat pour Québec solidaire dans la circonscription. Il avait obtenu 27,72% du vote lorsqu'il s'était présenté contre Dominique Anglade. Mais là, il revient à nouveau pour tenter de ravir la circonscription. Pour le Parti libéral du Québec, c'est Christopher Benninger, qui est un entrepreneur, qui s'était présenté, lui, contre Manon Massé dans la circonscription juste à côté, Sainte-Marie-Saint-Jacques. Finalement, avait été défait, donc lui aussi revient pour un round 2. Et là, après ça, c'est d'autres candidats. Le jeune Victor Pelletier, pour la Coalition Avenir Québec, 21 ans, qui se présente...
C'est dans un scénario extrême, là. Dans une élection générale, j'établirais les chances de la CAQ de gagner dans ce comté-là à 0%.
Oui.
Ou près de zéro. Mettons, mais des
extrêmement faible.
Ouais, 0,001. Dans une partielle avec un taux de participation si faible, je dis pas que ses chances sont bonnes. Mais à mon avis, ses chances sont un petit peu plus existantes parce que y a une part d'incertitude, OK? Moi, je m'attends que ça va voter là, maximum 30%, 30-31, puis peut-être en bas, peut-être dans les 20.
C'est triste, mais t'as sûrement raison.
Mais il y a tellement de gens qui vont pas voter que si un parti est bien organisé, puis sort sa masse de quelques milliers de votes, puis qu'ils vont voter, c'est pas le pourcentage sur l'ensemble, là, c'est le pourcentage, c'est les votes de ceux qui se sont rendus. Donc, c'est pas... Ça donne plus de place à des surprises. Dans le cas de Québec solidaire, eux doivent miser vraiment sur la machine, l'organisation, le candidat qui fait sa deuxième campagne en dedans de 6 mois, donc il y a encore son monde.
Ouais, puis dans le coin aussi, on s'entend, là, c'est les circonscriptions qui appartiennent très souvent à Québec solidaire dans ce cadre, dans ces quartiers-là.
Autour.
Donc, on a une machine, des bénévoles qui sont bien organisés, qui ont pu aussi faire campagne.
Là, mais les libéraux aussi, là-dedans. C'est les deux parties de Montréal, en fait. Le Québec solidaire puis les libéraux, c'est les deux parti de Montréal qui s'affronte un peu au cœur de Montréal, là, dans le quartier Saint-Henri, un peu le sud-ouest.
Pour le Parti québécois, on a Andréane Fiola, qui est elle aussi une ancienne candidate défaite. Elle, c'était dans Laval des Rapides en octobre dernier. Pour le Parti conservateur du Québec, c'est Lucien Cotty, lui, qui s'est présenté dans Verdun lors des élections générales. Il avait eu à peu près 5% des voix. Donc, c'est les principaux candidats qui sont en liste pour cette élection partielle. Les bureaux de vote qui sont ouverts jusqu'à 20h ce soir. Il y a eu des votes par anticipation dans la dernière semaine également. Donc, ça va être course intéressante à suivre, Mario. Souvent, dans des partiels, on a l'impression de savoir déjà qui va l'emporter, mais là, dans ce cas-ci, il y a encore de la surprise à venir.
Et remarque comme ça, on l'avait dit plus tôt dans le travail, mais si jamais Québec solidaire gagnait, ils ont eu 11 sièges à l'élection, ça serait leur 12e siège. Et donc, toute l'entente particulière entre les partis pour accorder des droits de parole et des budgets de recherche, ça, Québec solidaire, peut-être qu'il en resterait signataire, une fois que t'es signé puis le mandat est commencé. Mais je veux dire, ils en auraient plus techniquement besoin.
Ouais.
Parce qu'à 12 députés, ils rempliraient la condition de la loi, 20% ou 12 députés. Donc, à 12 députés.
Pour être un parti officiellement reconnu.
Pour être un parti officiellement reconnu, un groupe parlementaire officiellement reconnu, à l'Assemblée nationale du Québec.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Alors que la crise à la SAQ se poursuit, un peu moins virulente peut-être, mais qu'il y a toujours des gens qui attendent en file devant les divers bureaux. On a eu droit à un point de presse aujourd'hui de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, ainsi que du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Kerr, qui ont donné une mêlée de presse à Montréal aujourd'hui. Ils ont lancé plusieurs choses. Premièrement, qu'il va être possible maintenant de créer un compte, là, d'aller se faire aider pour un compte de nouveau service d'authentification gouvernementale là, qui est nécessaire désormais pour accéder justement au site SAQ. Ça clique. Et là, le problème, Mario, c'est qu'on sait que c'est en personne qu'on va pouvoir aller chercher de l'aide. Donc, si vous voulez avoir de l'aide pour créer votre compte SAQ, il va falloir vous présenter à l'une des 7 succursales de la SAQ.
En fait, je serais tenté de dire que ça s'adresse à 2 groupes de population.
Les aînés.
Les aînés ou les gens généralement vraiment moins familiers avec l'informatique. Et ceux pour qui c'est plus simple de se déplacer avec 2 pièces d'identité que de retrouver le donné avis de cotisation du ministère du Revenu.
Oui, parce que ça prend 4 documents différents pour pouvoir s'identifier.
Chez soi, si on le fait chez soi.
Chez soi, quand vous voulez faire devant votre ordinateur. Puis là, après ça, évidemment, il y a toutes sortes de conditions.
Mais
il faut avoir...
sur place, quand tu vas aller sur place, comme ils vont te voir, ils vont voir ta face, t'es devant eux, 2 pièces vont suffire. Donc, il est plus nécessaire d'avoir son avis de cotisation du ministère du Revenu.
Donc, ces points-là, ce sera l'Angelia, Montréal, Gatineau, Laval, Longueuil, Le Bourgneuf, Drummondville et le Saguenay. Donc, c'est les endroits où on va pouvoir retrouver là, de cette aide là, qui sera disponible dans les bureaux de la SAAQ. Et le ministère de la Justice aussi aujourd'hui qui a agi dans le dossier en invitant les automobilistes qui ont été, disons, condamnés injustement, là, qui auraient eu une infraction au code de la route parce que leur paiement de permis de conduire ou de plaque d'immatriculation serait pas passé. On a enjoint là, directement du côté du ministère de la Justice ces gens-là à mettre tout de suite un plaidoyer de non-culpabilité dès que c'est possible et que du côté de la SAQ, on va regarder là, tous les dossiers sur lesquels on plaide non coupable, aller évaluer si vous aviez bel et bien payé votre permis ou non et que ce sera là, par la suite là, acquitté en bonne et due forme. Donc, on a quand même pris un deuxième agissement. On est rendu quand même loin, Mario, du début où on parlait de les policiers vont exercer de leur bon jugement. On est rendu quand même dans quelque chose de pas mal plus administratif et direct.
Oui, absolument. Juste mise à jour, le 6 du Bas-Saint-Laurent confirme dans le dossier de l'accident à Amqui, un cas d'orange est en cours à l'hôpital d'Amqui. Cas d'orange veut dire qu'il y a nécessairement plus de 6 victimes qu'à l'hôpital d'Amqui. On rappelle systématiquement tout le personnel disponible. Mais tout indique là, que ce sera un bilan passablement lourd. Tu nous rappelles...
Une camionnette qui aurait embouti plusieurs personnes. Plusieurs piétons. Donc, qui circulait en bordure de route dans le centre-ville d'Amqui, dans le Bas-Saint-Laurent. Là, tout ça, comme tu expliquais, sur Saint-Benoît-Ouest, c'est la route 132 qui passe en plein milieu de la ville. Puis on parlait de plusieurs blessés, dont certains sont les autorités qui seraient entre la vie et la mort. On n'avait pas de chiffres, Mario, mais là, que tu nous dises qu'il y a un cas d'orange.
Cas d'orange à l'hôpital d'Amqui, oui.
Donc, on parle d'un minimum de 6 personnes, règle générale, dans ce dossier-là. Très clairement, ce serait une affluence comme on voit rarement là, dans une région comme celle-là. Toujours dans le domaine des transports, Mario, une Lavalloise qui a eu un combat assez épique, judiciaire, aux petites créances contre le ministère des Transports du Québec, justement.
Épique pas tant sur le montant d'argent que sur les délais et ses efforts.
Ouais, Brittany Ménard, qui était un peu plus tôt avec nous à l'émission, a expliqué que pour avoir une réparation de 449,50 $ pour une réparation de pneus à la suite d'un nid de poule là, dans lequel elle est entrée à Saint-Jérôme le 4 mars 2022.
Avec son véhicule flambant neuf, 5 heures après la sortie chez le concessionnaire.
Ouais, ça fait toujours mal au cœur d'entendre ça. Rentre dans le nid de poule et là, la MTQ décide de ne pas la payer en vertu de l'article 30 de la voirie, entre autres, où on dit que les préjudices aux pneus, aux essieux, à suspension, tout ça, c'est pas du ressort du ministère parce que ça arrive en l'hiver, qu'il y a des dommages. Puis c'est ce qu'on lui a répondu, que c'est normal. Le petit problème, Mario, c'est qu'elle a fait des demandes, des démarches pour savoir s'il y avait eu des signalements de ce nid de poule-là. Et surprise, surprise, il y en avait 5 distincts en moins d'un mois. 16 février 2022, un premier se plaint. Le 28, il y a un autre homme qui se plaint qui est tombé dans un nid de poule. 1er mars, un conducteur qui dénonce un trou dangereux. Le lendemain, personne qui a 2 pneus fendus dans le même trou. 3 mars, même chose, 2 autres pneus crevés en passant dans un nid de poule. Et donc,
quand tu pètes tes 2 pneus, c'est-à-dire genre les 2 pneus du même côté, je peux dire les 2 à gauche ou les 2 à droite, c'est un solide nid de poule.
Ouais, dans un boum boum sur le
boum boum, tes 2 pneus y ont passé. Là.
Exact. Et là, malgré malgré tous ces signalements-là, on comprendra évidemment que lorsque Mme Ménard est tombée, elle aussi, à son tour, dans ce trou-là pour endommager son véhicule, ben non seulement le trou avait pas été réparé, bien évidemment, mais il y avait aucune signalisation autour qui avertissait, même s'il y avait eu 5 signalements, on le rappelle, qui avertissait qu'il y avait une énorme nid de poule en avant, puis de faire attention. Et donc, du côté du tribunal, on a jugé que l'MTQ avait fait une lourde faute dans ce dossier-là, et donc a demandé à ce qu'il y ait paiement. Mais au départ, le ministère des Transports du Québec refusait, Mario, de payer, voulu aller faire un nouveau procès en disant que son avocat s'était pas présenté sur les lieux à temps, qu'il avait une bonne raison. Mais finalement, Mme Ménard, sur nos ondes, il y a quelques minutes, nous a affirmé que cet après-midi, c'est chose faite. Tout d'un coup, le ministère des Transports qui a décidé de lui envoyer un courriel pour dire qu'ils allaient payer. Crois-tu, Mario, je veux pas être de mauvaise foi, mais est-ce que ça a rapport avec le fait qu'elle a raconté son histoire aux médias aujourd'hui?
La médiatisation, c'est fort possible. Je veux dire, moi, j'en revenais pas, là, parce que ils disent qu'il y avait une bonne raison, l'avocat avait un empêchement, etc., etc. Mais t'es le ministère des Transports. T'es convoqué aux petites créances. Je veux dire, présente-toi. Là. Puis si tu te présentes pas, ben là, t'as fait défaut aux petites créances de te montrer à face. Ben, paye. Là. Je veux dire, de demander de reprendre... Madame a pris congé de sa job. De demander de reprendre un procès de petite créance pour 450$ quand tu t'appelles le ministère des Transports et que déjà t'as foiré, t'as laissé un trou, a brisé son véhicule. Sérieusement, de l'accumulation, j'en revenais pas. Moi, je pense que là, ils se sont dit... Eh ben, parce que des fois... Peut-être même qu'il y a des... C'est peut-être même remonté jusqu'au bureau du ministre qui ont dit hey, « c'est quoi ce merde-là encore avec notre ministère qui se fait planter? » Puis ils ont dit « Hey là, 450$, payez ça, puis arrêtez.
Hey, » payez ça, c'est assez.
Arrêtez, là, c'est assez dans leur câble.
Ouais, parce que c'est une chose que ton voisin contre qui tu te bats aux petites créances se présente pas une journée en cours, mais que le ministère des Transports du Québec soit pas capable d'envoyer quelqu'un à temps.
Ah, c'est loufoque.
C'est sûr que c'est un peu loufoque. Nouvelle de dernière heure, encore une fois, Mario, qui m'arrive toute participation en date de 16h pour les élections dans la partielle. Au terme du vote par anticipation, là, on était à 12,82%. Semble-t-il qu'on est monté jusqu'à date, là, en date de 16h, à 15,98%.
Ça veut dire qu'il y a 3%, un petit peu plus que 3%, 3,1% qui a voté aujourd'hui à 16h.
Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 20h. On invite les gens à
aller voter. C'est assez tranquille jusqu'à cette heure-ci. Là.
C'est assez tranquille jusqu'à cette heure-ci. Là. Sachez que c'est important pour la démocratie.
Mais ce matin,
peu importe
ouais,
la taille
ce matin
du
on
vote,
avait
là.
Une journaliste qui est allée faire quelques points de votation. Elle a croisé des gens, là, mais...
Ça ne se bouscule pas au portillon.
Non, il n'y avait pas de fil.
Ouais, faut comprendre que, peu importe la taille du vote, c'est important d'aller voter.
Ben oui, absolument.
Il y a des candidats, l'exercice démocratique demeure encore et toujours très important.
Tout savoir en 24 minutes.
Les affaires judiciaires, il y a un Montréalais qui avait plaidé coupable de négligence criminelle parce qu'il avait transmis le VIH à deux partenaires intimes. Désormais, veut renier ses aveux et réclame un nouveau procès parce qu'il veut augmenter ses chances de rester vivre au Canada. C'est le cas d'Alfredo José, 59 ans, qui était peu soucieux de se protéger malgré un diagnostic du VIH. Deux de ses anciennes partenaires ont fini par découvrir des années plus tard qu'il était porteur et donc les avait contaminés par la suite. Au départ, il était accusé en 2016 d'accusation d'agression sexuelle grave. Finalement, elle a décidé de couper court en plaidant une accusation réduite de négligence criminelle causant des lésions en 2020. Mais là, depuis 3 ans, le dossier n'arrête pas de traîner. Et là, on demande de retirer son plaidoyer de culpabilité parce qu'il dit ne pas avoir été bien informé du fait que s'il plaidait comme ça, qu'il pourrait probablement plus rester au Canada et donc demande à ce qu'on retire son plaidoyer en tant que tel. Dans l'histoire judiciaire dont on a hâte de voir ce
bizarre
en retourne.
Ouais, bizarre histoire judiciaire.
Ouais, parce qu'on parle de délai, il y a certains cas qui l'imagent bien comme celui-ci, comment on peut traîner un dossier vraiment longtemps.
Économie.
Évidemment, en économie, on continue de suivre là suite au déboire de la Silicon Valley Bank, cette banque qui a fait faillite aux États-Unis, plus grande faillite bancaire depuis la crise financière de 2008. Évidemment, les marchés sont sous haute surveillance et c'est le président américain Joe Biden qui s'est forcé aujourd'hui de tenter de répondre aux inquiétudes d'un peu tout le monde, évidemment aux États-Unis, mais également ailleurs. Rappeler aux Américains qu'ils peuvent avoir confiance à un système bancaire que lui qualifie de solide. Il dit que tout va être fait, là, tous les moyens nécessaires vont être pris pour assurer que les gens puissent avoir accès à leur argent. Mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu une crise comme celle-là au niveau des banques.
Et c'est parce que là, il y a eu une banque, après ça, une deuxième banque en fin de semaine, la Signature Bank à New York. Et il y en a quand même quelques autres banques aujourd'hui dont, bon, tu sais, que les actions des grandes banques perdent 2, 4, 5 % en bourse, c'est une chose. Mais il y a d'autres banques, la First Republic Bank, là, a perdu 70, 80% de sa valeur en bourse aujourd'hui.
Ouais, fait ça s'effondre, là.
Ben, tu dis, est-ce qu'elle va survivre? Puis c'est un peu, on craint toujours l'effet domino, l'effet de contagion, là, tu sais, qu'une banque en fait tomber une autre, en fait tomber une autre, en fait tomber une autre.
Ouais, parce que quand on voit un scénario comme celui-là, le réflexe de certaines personnes, c'est de se dire, bon, je vais aller chercher mon argent tout de suite avant qu'il n'y en ait plus. Mais là, les autorités américaines ont annoncé là, qu'elles allaient garantir le retrait en intégralité de tous les dépôts de la banque californienne qui a été en faillite dans ce cas-ci. Mais c'est certain que le premier devoir à ce moment-là de Joe Biden, c'est de rassurer les gens, c'est de rassurer les consommateurs pour éviter justement qu'il y ait cet effet domino, là, que est ce qu'on appelle en anglais un bank run. Donc ça donne quand même certaines frousses au marché. Mario, le S&P 500 qui perdait 1% là, déjà ce matin. Donc, on est quand même là dans certaines inquiétudes.
Mais ça n'a pas été l'hécatombe sur les marchés aujourd'hui. C'était une autre mauvaise... Mais je veux dire, ça va mal depuis le début mars. Mais ça n'a pas été l'hécatombe. Donc, c'est comme si le président Biden, malgré tout, malgré la nervosité, malgré que quelques banques se montrent fragiles, il a évité la panique générale. En tout cas, son intervention semble avoir minimalement évité ça.
Le Monde.
Hier soir, c'était la soirée des Oscars, peut-être un événement dans les dernières années qui a été beaucoup critiqué, que certains trouvaient vieillot, insipide. Et hier,
à un certain point, on ne pouvait plus trouver d'animateur, là.
Ouais, ça devenait assez difficile. Merci.
Il y a personne qui était assez parfait pour animer les Oscars. Tout le monde avait déjà dit une phrase, touché quelqu'un, regardé quelqu'un. Valait mieux prendre de chance, plus d'animateur.
Ouais. Et là, ben hier, c'est un événement qui s'est somme toute bien déroulé pour la 95e cérémonie des Oscars, alors que la surprise a été causée par le film qui a remporté là, avec 11 nominations et reparti avec 7 trophées, Everything, Everywhere, All at Once, qui est un film rocambolesque, mais surtout extrêmement différent de la plupart des films qui sont habituellement récompensés là, par l'Académie du cinéma. On parle d'un film avec un petit budget, somme toute, par rapport à tous ses compétiteurs qui sortaient complètement des normes. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là.
Non.
Complètement déjanté, c'est les mots que j'ai employés pour tout tout en étant extrêmement touchant. Un scénario là que je ne veux pas divulgâcher pour personne, mais dont j'invite à aller voir. Un film vraiment, vraiment, vraiment spécial. Mais surtout parce que on a donné des Oscars à toutes sortes de personnes qui ont participé, toutes sortes d'acteurs qui ont participé à ce film-là, dont Michelle Yeoh, qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice, qui devient aussi la première femme asiatique à remporter ce prestigieux prix. Mais c'est aussi l'homme qui l'accompagne dans ce film-là, qui joue son mari, Ke Huy Quan, qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur de soutien. Et lui, ce qu'il faut, celui dont il faut se souvenir, Mario, dans cette histoire-là, c'est que c'est un acteur que tu as déjà vu, Mario. Il jouait, il y a presque 40 ans, dans Indiana Jones et le Temple Maudit, Mario, and the Temple of Doom, le jeune garçon qui accompagne, c'est une demi-lune dans le film, qui accompagne Indiana Jones partout, c'est lui. Après avoir joué dans ce film-là et dans Goonies lorsqu'il était un enfant, il a arrêté d'être acteur, a travaillé encore dans des milieux de cinéma, mais il est revenu comme ça et gagne
un Oscar.
Il a même eu une accolade là qui va passer à l'histoire.
Mais c'est un peu la même chose avec Brendan Fraser là, qui a gagné pour The Whale, pour La Baleine, qui une décennie pas de rôle, plus d'intérêt pour lui à Hollywood, revient dans ce rôle très particulier là, d'un homme de 600 livres qui vit son drame coincé dans son appartement.
D'ailleurs, qui était maquillé par un Québécois, Adrien Moreau, pour l'Oscar des meilleurs maquillages qui était là, une très belle palme qui a été remportée. Et pas pour revenir à Ke Huy Quan, il y a même eu une accolade hier qui va passer à l'histoire sûrement avec Harrison Ford, justement, qui interprétait Indiana Jones. Il y a comme une grosse accolade. Puis je te fais écouter un tout petit peu là, de son discours de remerciement. C'était assez poignant là, à
émotif,
entendre.
Émotif, ouais.
My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp. And somehow, I ended up here on Hollywood's biggest stage. They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. This is the American dream.
Donc, c'est ça le rêve américain. Je suis arrivé dans un camp de réfugiés parce qu'il est lui-même d'origine vietnamienne. Donc, les boat people, hein, les gens qui sont immigrés depuis le Vietnam jusqu'en Amérique. Donc, une histoire très, très touchante, là, et qui a eu lieu hier aux Oscars. Et rapidement, en terminant, Mario, histoire, moi je suis toujours ce qui se passe dans les milieux complotistes et il y a un homme très connu dans ces milieux-là, Danny Lemoy, qui lui gère un forum sur Telegram de gens qui prennent de l'ivermectine. Tu te souviendras sûrement
c'est
de ça.
C'est le médicament pour les chevaux, je m'en souviens très bien.
Le médicament déparasitaire pour les chevaux et pour les vaches, entre autres.
Qui était bon pour la COVID, mais que dans le complot, on voulait pas le fournir aux gens.
Exact, et ce qu'il faut comprendre, c'est que prendre ce médicament-là, ben, c'est des concentrations qui sont faites pour un cheval, justement. Et à moins que vous pesiez le poids d'un cheval ou d'une vache, ben, ça devient toxique pour vous très rapidement, l'ivermectine. Et donc, cet homme-là serait décédé de plusieurs complications qui sont liées avec tout ça. Et là, dans les commentaires, ça a commencé à s'affoler pour des gens qui ont commencé à lister leurs symptômes, qui sont nombreux, pour plusieurs personnes qui prennent de l'ivermectine tous les jours. Mais peu d'inquiétude dans ce milieu-là, Mario. Ils ont déjà trouvé des excuses pour continuer d'en reprendre encore plus.
En rappelant que c'était tellement rendu problématique dans certains États américains que pour en avoir chez le vétérinaire, il fallait que tu montres une photo de ton cheval pour prouver que tu avais vraiment un cheval, que c'était pas pour toi. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.